Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Vous le savez, je l'ai souvent dit, c'est Stéphane Bern qui m'a lancé dans le métier. Et aujourd'hui, j'espère vraiment que notre thème ne va pas lui donner une mauvaise idée. Notre thème étant ces artistes qui ont détruit leurs propres œuvres. Stéphane, je vous en conjure, vous m'avez fait, vous pouvez me défaire, mais ne détruisez pas votre œuvre, Stéphane. Ça serait dommage.
Ah oui, ça serait vraiment dommage. Non, je me réserve pourtant ce soir. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, cet après-midi, on réunit trois personnages qui ont détruit leurs propres œuvres. A commencer par le cinéaste et écrivain Marcel Pagnol, qui a choisi en pleine guerre et sous la pression nazie de sacrifier les pellicules du film qu'il était en train de tourner et qu'on ne verra donc jamais. La raison, il ne voulait pas collaborer avec l'ennemi. Et puis, je vous raconte l'histoire d'une sculptrice et peintre qui s'est réalisée aux côtés d'Auguste Rodin avant de basculer dans la folie et de détruire une partie des œuvres qu'elle avait créées, Camille Claudel. Enfin, de votre côté, Mathieu, vous nous parlez d'une destruction d'œuvre, j'allais dire, plus calculée.
Oui, Stéphane, souvenez-vous, le 2 février 2019, vous décrochiez à coups de millions de dollars au terme d'une vente aux enchères palpitante chez Sotheby's, un sublime Banksy. Quelques heures plus tard à peine, alors que vous l'aviez accroché au mur à côté d'un Picasso, paf ! L'œuvre s'autodétruit.
Oh non !
Et si, Stéphane, 2 millions d'euros partis en fumée, Banksy vous a fait une blague, mais rassurez-vous, c'était toujours de l'art. Je vous dresse le portrait à 99% vrai d'un génie malicieux.
Oui, à propos, nous avons avec nous, comme chaque jour, trois génies extrêmement malicieux. Pourquoi elle rit ? Elle nous entraîne dans l'intimité des
c'est
grandes
vrai,
mondes.
Vous n'êtes pas des génies ?
Carmen. On va parler de Carmen.
Oui, on va parler de Carmen. Parce qu'on avait,
j'ai dit votre nom.
Non, vous avez dit Carmen. Vous l'avez annoncé, on a cru que c'était Carmen qui était avec nous.
On c'est va assez. Clémentine Portier Kaltenbach.
Et qui va, comme d'habitude, vous parler d'amour, naturellement, et de cette œuvre, Carmen, qui est loin d'être dans le cas de celle que vous allez évoquer, vous, et la plus jouée au monde de nos jours. Mais voyez-vous, à la fin du 19e et au début de la 3e République, quand on veut présenter un jeune garçon à une fille, des fiancés, eh bien, on se rend à l'Opéra Comique. Donc, ça doit être un spectacle léger, mais chaste. Et au moment de la première de Carmen, ça fait un véritable scandale, et c'est ce scandale que je vais vous raconter.
Le scandale des assistants vocaux, vous nous en parlez aujourd'hui. Bonjour David Castello-Lopez.
C'est le goût des transitions que vous avez.
Oui, c'est pas un goût.
C'est Marabout Boutricelle.
C'est exactement ça.
Non, il n'y a pas de scandale des assistants vocaux, mais en tout cas, je vous parlerai des origines des assistants vocaux.
Et puis, Olivier Poulche, vous savez ce qu'il fait ? Il répond à nos demandes. On lui avait demandé de nous raconter le service à table.
L'évolution.
L'évolution,
au cours des âges.
Quand je vais manger chez Stéphane, j'ai droit au service à la française. Chez Clémentine, c'est le service à la russe. Le service à la portugaise chez David. Chez vous, c'est le service à l'américaine, je crois.
Alors, comme vous y allez.
D'où viennent ces différents services ? Quelles sont les règles qui les régissent ? Ben, je vous saurai tout.
Nous saurons tout, mon cher Olivier. On a hâte. Enfin, il y a pire, Stéphane, que finalement les créateurs qui cherchent à détruire leurs œuvres, les œuvres ingrates qui cherchent à détruire leurs créateurs. À 5h10, nous jouerons à Burn to be Alive, ce quiz vicieux que vous connaissez bien. Et après ça, il restera autant de votre réputation que du tableau de Banksy après avoir implosé. Mais ces réjouissances sadiques sont loin encore. Pour l'heure, découvrons notre premier artiste qui a détruit ses propres œuvres. Stéphane Bern nous raconte Marcel Pagnol.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a eu les célèbres Marius, Fanny et César, et il y aurait dû y avoir Florence, Dominique et Pierre. Trois personnages qui devaient donner vie à sa nouvelle trilogie. Mais voilà, le cinéaste Marcel Pagnol a volontairement détruit les pellicules durant un tournage. Stéphane Bern nous raconte Pagnol, l'artiste qui a détruit sa propre œuvre.
Nous sommes en principauté de Monaco à l'été 1941. Il est tout juste 5h du matin et alors que les premiers rayons du soleil viennent éclairer le rocher, Marcel Pagnol est déjà au travail. En tête à tête avec sa machine à écrire, l'auteur de la trilogie marseillaise est sur le point d'achever un scénario sur lequel il planche depuis 3 ans déjà. Dans les années 20, Pagnol s'était fait une réputation grâce au théâtre. Mais l'apparition du cinéma parlant l'a décidé à ajouter une corde à son arc. Dans quelques semaines, il pourra commencer le tournage de son prochain film dans un décor idéal, celui bien sûr de sa Provence natale. Aux côtés de Pagnol, Josette Day est encore endormie. Marcel la contemple avec tendresse. Voilà 2 ans qu'ils entretiennent une liaison tumultueuse. Mais l'actrice et sa muse, celle qui lui a inspiré le personnage de Florence, la pierre angulaire de ce récit en 3 volets qu'il compte bien réaliser. Sur la première page du scénario, on peut lire le titre de la trilogie « La prière aux étoiles ». Sur les feuillets qui suivent, Pagnol nous plonge dans l'histoire que voici. À Paris, durant l'entre-deux-guerres, Florence est une jeune actrice de cinéma libre et désinvolte. Elle se laisse entretenir sans l'aimer par Dominique, le fils d'un riche industriel lyonnais. Mais quand Florence apprend que Dominique a financé tous les films où elle a obtenu un rôle, elle refuse catégoriquement de l'épouser. Chaque soir, Florence adresse une prière aux étoiles, caressant l'espoir de faire la rencontre amoureuse qui changera le cours de sa vie. Et un beau jour, son chemin croise celui de Pierre, un compositeur de musique désenchanté. Ensemble, les amants fuient la capitale pour vivre leurs amours cachés à l'hôtel des Calanques dans le Midi. Silence, on tourne sur le petit port de pêche de Cassis, alors que les cigales n'en finissent plus de chanter, Marcel Pagnol réalise enfin les premières prises de vue de son film. Dans le champ de la caméra, on retrouve les têtes d'affiche. Josette Day, qui s'est mise dans la peau de Florence, et Pierre Blanchard, qui prête ses traits au personnage de Pierre. Florence, Dominique et Pierre. Comme pour Marius, Fanny et César. Chacun des 3 volets de la nouvelle œuvre de Pagnol portera le nom de ses héros. Le tournage du premier film doit s'organiser en 2 temps. On mettra d'abord en boîte les séquences qui se déroulent dans le Midi, puis l'équipe entière pliera bagages, direction Paris. Une grande première pour Pagnol, qui n'a jamais filmé la capitale. Mais avant d'immortaliser la Tour Eiffel, il lui faut affronter une succession d'imprévus. Toute l'équipe en convient, le port de Cassis, ses plages de galets et ses calanques, c'est le décor parfait. Le problème, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls à avoir su déceler le charme du paysage. Et oui, les congés payés ont popularisé les vacances. Les plagistes affluent en nombre pour se prélasser au soleil et oublier l'espace d'un instant le traumatisme de la défaite. Pagnol voit rouge. Plus une prise de vue sans qu'un figurant non prévu n'apparaisse dans le champ de la caméra. L'équipe n'a plus qu'à remballer le matériel pour se rabattre impasse Jean Mermoz à Marseille, où le cinéaste possède des studios. Mais en cet été 1941, les plages bondées sont loin de constituer l'unique souci de Pagnol. Depuis plusieurs mois déjà, la France vit des heures sombres de l'occupation. Et même en zone libre, le bruit des bottes allemandes résonne. À cause de la législation anti-juive de Vichy, l'assistante Pagnol et son chef opérateur sont interdits de travail. Et alors que la résistance s'organise, certains proches du réalisateur s'engagent dans la lutte clandestine. Mais ce tournage en équipe réduite est aussi menacé par les rationnements en électricité, la pénurie de bois, de fer, de peinture qui servent à construire les décors, ou le manque de tissu pour les costumes. Et pour couronner le tout, c'est le parcours du combattant pour trouver des pellicules de bonne qualité. En ces temps difficiles, elles sont rares et se vendent à prix d'or. Bref, on tourne tant bien que mal. On enregistre quelques scènes entre 2 prises de bec de Pagnol et Josette, dont la relation bat de l'aile. Et puis, il y a ces interruptions de tournage pour des problèmes de santé qui conduisent tour à tour Pagnol et ses acteurs chez les Blouses Blanches. Ce film serait-il maudit? La question taraude tous les esprits. La suite des événements donne malheureusement raison à ceux qui l'affirment. Voilà qu'un matin, Marcel Pagnol voit débarquer à la porte de ses studios marseillais l'un des sbires de la Continentale. Cette société de production cinématographique a été créée juste après la débâcle de 1940. C'est Joseph Goebbels, le propagandiste en chef du Troisième Reich, qui est à l'initiative du projet. Grâce à la Continentale, il entend renforcer la mainmise allemande sur le cinéma français pour qu'il devienne un outil à la gloire du Führer. D'autant qu'en ces heures sombres, les lieux de divertissement, que sont les salles de cinéma, ne désemplissent pas. Alors quand impasse Jean Mermoz, le visiteur allemand comprend que quelque chose se trame dans les studios, son visage s'éclaire d'un sourire trompeur. Sur un ton menaçant, il affirme que la compagnie qu'il représente serait ravie de distribuer ce nouveau long métrage. La proposition sonne comme un ordre. Pagnol botte en touche. Hors de question pour lui de livrer en pâture à l'ennemi son grand projet. Il faut esquiver sans s'attirer les foudres du patron de la Continentale. Alors il affirme sans broncher que les bobines qui contiennent les scènes déjà filmées sont inexploitables. elles vont être détruites et le projet abandonné. La réponse tombe comme un couperet. L'Allemand veut assister à la destruction des pellicules. Pagnol est acculé. Cette trilogie devait être son œuvre maîtresse, mais son développement n'est qu'une succession d'embûches. Le lendemain, on le voit installer un bio de bois dans la cour des studios et revenir quelques minutes plus tard, une hache à la main. Sous le regard médusé de ses équipes, Pagnol détruit les bobines de son film. Et s'il restait des copies de La prière aux étoiles ? Et si Marcel Pagnol avait simplement voulu tromper l'ennemi dans une mise en scène particulièrement réussie ? Après tout, n'est-il pas dramaturge ? Ben en fait, Pagnol n'a pas menti. Les pellicules sur lesquelles il s'est acharné à coups de hache étaient bien inexploitables. Il n'a jamais voulu abandonner le tournage de son film, mais désormais il filmera clandestinement. Voilà sa manière d'entrer en résistance. Sauf que c'était sans compter sur l'opiniâtreté de la Continentale qui revient vite à l'attaque. La voilà qui offre à Pagnol un poste de directeur. Et à nouveau, il faut se creuser les méninges. Comment peut-il exprimer son refus de collaborer sans froisser personne ? Il prétexte une cécité, mais l'excuse le contraint aussi à vendre ses studios et ses laboratoires à la Gaumont. Cette fois-ci, c'est bel et bien cuit. La mort dans l'âme, Pagnol doit se faire une raison. Jamais son public ne pourra s'émouvoir en écoutant sa prière aux étoiles. Étoiles, dites-lui que je l'attends. S'il est savant, je lirai tous les livres. S'il est marin, je saurai l'attendre. Et s'il est roi, je serai reine. Étoile, faites que je l'aime. Donnez-lui seulement la patience de supporter mon grand amour. Car l'unique et noble richesse n'est pas l'amour qu'on inspire, c'est celui qu'on a dans le cœur. Portez-lui ce message ce soir et faites qu'il vienne demain. Après la fin de la guerre, Marcel Pagnol reviendra derrière la caméra pour diriger Jacqueline Bouvier, la future Madame Pagnol, dans son film Manon des Sources. Puis il raccrochera pour toujours la casquette de réalisateur. Mais un écrivain naît des cendres du cinéaste. À la fin des années 50, Marcel Pagnol se lance dans la rédaction des souvenirs d'enfance. Dans la gloire de mon père, le château de ma mère et le temps des secrets, l'enfant d'Aubagne, né sous le massif du Garlaban, raconte sa jeunesse provençale. Et aujourd'hui encore, en tournant chaque page, on entend l'accent chantant de ces inoubliables personnages.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marcel Pagnol, nous avons le plaisir d'accueillir son petit-fils, Nicolas Pagnol.
Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour.
En plus d'être le petit-fils de Marcel Pagnol, vous avez initié la collection Marcel Pagnol aux éditions Grand Angle, qui permet de faire revivre l'œuvre de Marcel Pagnol en bande dessinée. La prière aux étoiles, le nouvel album, sort aujourd'hui. Publier cette BD adaptée d'une œuvre que votre grand-père a détruite à la hache est hautement symbolique. C'est évidemment une façon de prolonger sa mémoire. C'était aussi pour vous une forme de devoir de mémoire ?
Oh oui, bien sûr. Quand ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, m'a demandé de m'occuper de l'œuvre de mon grand-père, c'était une responsabilité. Donc effectivement, j'ai un devoir de mémoire, j'ai surtout le devoir de passer cette mémoire aux plus jeunes. Et la bande dessinée est un formidable outil en ce sens, parce que c'est beaucoup plus ludique pour les enfants ou même les adultes qui n'aiment pas lire ou qui n'aiment plus lire ou regarder des films en noir et blanc.
Nicolas Pagnol, vous êtes né en 73, Marcel Pagnol est mort en 74. Vous n'avez donc presque pas connu votre grand-père, mais qu'est-ce qui vous a transmis au-delà de ce patrimoine dont chacun d'entre nous peut jouir aujourd'hui ?
Par l'intermédiaire de ma grand-mère, je pense qu'il m'a transmis cet amour de la liberté de créer ou de mener ses projets en toute indépendance. C'est vraiment quelque chose de central chez lui et qui s'est transmis à mon père, à mon frère, enfin à toute la famille.
Le fait que Marcel Pagnol ait détruit une partie de son œuvre avant même que les Allemands la récupèrent, qu'est-ce que ça dit de lui ? C'est au fond, c'est quelqu'un qui plaçait son intégrité et sa liberté artistique au-dessus de tout, justement.
Oui, bien sûr, il a refusé de collaborer, c'était impensable pour lui, il était tellement attaché à la France, et puis il avait déjà connu la Première Guerre mondiale, donc je pense qu'à l'époque, énormément de monde savait ce que pouvait représenter la guerre, l'asservissement, et effectivement, il y a cette cette notion de liberté qu'on retrouve dès 1932 lorsqu'il crée ses laboratoires, ses agences de distribution de films, sa société de production pour pouvoir faire un cinéma qui lui ressemble, qui n'a rien à voir avec le corpus cinématographique de l'époque. Et il va se battre pour conserver cette liberté et faire par parler de sa région, des gens qu'il aime, du petit peuple. C'est cela, Marcel Pagnol. C'est Claude Belli qui avait écrit un très joli livre qui s'appelait Marcel Pagnol ou le cinéma en liberté. Et au moment où faire du cinéma va devenir trop compliqué, c'est-à-dire après-guerre, avec des grandes productions américaines, Marcel sent qu'il ne peut plus être indépendant. D'ailleurs, il a tout perdu sous l'occupation. Il remontera une société de production en 1944, mais à partir de 1950, il comprend qu'il ne peut plus être indépendant. Donc, il va arrêter le cinéma en 1955 et il va devenir romancier. Il va retrouver les racines de cette liberté, un porte-plume à la main devant une page blanche.
On continue à parler de nos personnages qui ont détruit leurs propres œuvres et de Marcel Pagnol en particulier avec notre invité Nicolas Pagnol sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont détruit leurs propres œuvres. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre. Avec Stéphane Bern, on parle de Marcel Pagnol avec notre invité, son petit-fils Nicolas Pagnol. Alors Nicolas, vous dites en préambule de la BD qui redonne vie à la prière aux étoiles que Marcel Pagnol avait détruit sous la pression nazie, on en a parlé, que ce film, cet échec, est un pivot dans la vie de Marcel. Il perdit en même temps sa compagne, son film, ses sociétés, un naufrage dans la vie de cet homme à qui tout avait souri dans la vie. Finalement, en détruisant les pellicules, il détruit pas simplement un film, mais quelque part toute sa vie, tout ce qu'il avait bâti.
Oui, bien sûr. Et il y a deux raisons à cela, pour moi. La première raison, c'est bien sûr le refus de collaborer avec la Continentale et avec les Allemands. Mais la deuxième raison, qui est sans doute beaucoup plus profonde, c'est l'échec de sa relation avec Josette D, dont il était éperdument amoureux. Et elle, ne l'était pas vraiment. Et on peut retrouver cette relation dans la prière aux étoiles. Marcel Pagnol est représenté par la synthèse de Pierre et Dominique, et Josette, c'est Florence. Dominique, dans sa relation amoureuse avec Josette, c'est-à-dire que c'est un homme riche, puissant, qui fait du cinéma, qui paie des films à sa maîtresse, qu'il aimerait bien voir devenir sa femme. Et puis Pierre, ce compositeur qui a l'impression d'avoir gâché son talent pour composer des bluettes, alors qu'il était plutôt voué à créer des opéras ou de grands thèmes classiques. Et là, on a vraiment la psychologie de Marcel Pagnol à ce moment-là, amoureux d'une femme qui ne l'aime pas et ayant peut-être l'impression d'avoir sacrifié son talent sur l'autel de la comédie dramatique. Pagnol, lorsqu'il commence à écrire à 15 ou 16 ans, il se rêve Homer, il se rêve Virgile, Shakespeare, et il va se révéler un grand auteur tragicomique. On peut faire une référence au Schpunz. Mmh. Irénée Fernandel dans le Schpunz, qui veut devenir un grand tragédien et qui, en définitive, sera un grand, très grand acteur comique.
Mais ça veut donc dire, Nicolas Pagnol, qu'il fallait qu'il détruise cette part de lui-même pour se retrouver, pour retrouver celui qu'il voulait être.
Sans doute. Il y a été forcé aussi, je pense. Oui. Il faut voir les choses beaucoup plus simplement. Il était hors de question pour lui de collaborer avec qui que ce soit, et encore moins avec des Allemands. Son avocat avait été déporté, il avait perdu plusieurs de ses employés. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que lorsqu'il vend toutes ses sociétés à Gaumont, il va acheter une propriété horticole au-dessus de Nice pour y faire des œillets. La source est perdue, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Oui. Et il va signer des faux certificats de travailleurs de force aux employés du studio pour qu'ils viennent se réfugier au-dessus de Nice avec lui. Donc il y a un réel investissement contre, alors je ne veux pas parler là de résistance, ça n'a rien à voir, mais en tout cas un réel investissement pour protéger son personnel, ses amis, essayer de les soustraire à l'emprise allemande. Donc je crois que vraiment il détruit son film pour ne pas avoir à le donner en distribution aux Allemands.
Il ne voulait pas pactiser avec les Allemands. Ce qui frappe dans le parcours de Marcel Pagnol, c'est le goût du risque toujours. Pagnol, c'est l'histoire d'un fils d'instituteur d'Aubagne qui va conquérir Paris. C'est aussi celle d'un auteur de théâtre reconnu qui va parier très tôt sur le cinéma parlant, évidemment, oui. Alors que l'heure est encore au cinéma muet. Au fond, cet homme est un visionnaire.
Oui, c'est un visionnaire, un self-made man. Il était passionné de technique, de technologie, et surtout lorsqu'il voit un des premiers films parlants à Londres qui s'appelle Broadway Melody, il comprend que c'est une nouvelle forme de l'art dramatique et qu'on n'écrira pas pour le cinéma comme on écrit au théâtre. Donc c'est au niveau littéraire tout de suite qu'il comprend l'importance du cinéma parlant, qu'on va pouvoir ellipser, que l'on va pouvoir entrer à chaud dans les situations, qu'au niveau du jeu des comédiens, eh bien on pourra réellement chuchoter à l'oreille du spectateur, ce qui n'est pas possible au théâtre. Et il se lance dans l'aventure contre l'avis de tous. Les gens du théâtre lui en veulent énormément parce qu'il était la gloire nationale du théâtre français. Que ce soit Topaz, Marius ou Fanny sont joués dans le monde entier dès leur création. Donc les gens du théâtre lui en veulent. Les gens du cinéma muet ne veulent pas du cinéma parlant. Et il doit se battre avec le producteur de Paramount pour que celui-ci accepte de porter Marius à l'écran dans son adaptation. Donc oui, il est visionnaire, mais après-guerre, lorsque la France est libérée, il va aussi se battre contre l'impérialisme culturel américain pour défendre la culture française. Mmh. C'est pourquoi il va s'associer avec les frères Roux qui ont inventé un système couleur français pour tourner des films couleur français parce que les Américains refusent tout simplement de vendre de la pellicule couleur à la France. Donc, s'il ne travaille pas avec les Allemands, c'est bien sûr par goût de la liberté, par défense de la culture française et tout simplement pour la défense de la liberté.
Si je vous écoute, Nicolas Pagnol, et si j'écoute le récit de Stéphane avant, en fait, on réalise que avec la destruction de ces bandes, avec la destruction, avec le fait qu'il perd sa maison de production, il y a un tournant dans sa carrière. Marcel Pagnol ne serait pas devenu écrivain. On n'aurait pas eu La gloire de mon père, on n'aurait pas eu Le château de ma mère, toutes ces œuvres qu'on adore, si il n'y avait pas eu ce revers de fortune avec le cinéma, finalement.
Sans doute, car Marcel avait acheté le château de la Buzine en 1941 pour en faire la cité du cinéma. Il voulait faire Hollywood en Provence, et puis l'occupation a mis un terme à ce projet. Mmh. Si ce projet était allé au bout, effectivement, peut-être que Marcel ne serait jamais devenu romancier, et que nous n'aurions pas eu les souvenirs d'enfance, ni l'eau des collines, effectivement.
L'œuvre de Marcel Pagnol, ce sont évidemment des films, des livres, mais un lieu aussi. Vous êtes à l'initiative du musée Pagnol dans la commune d'Allau, en Provence, que vous êtes en train d'ouvrir, de prolonger en recréant les décors de ces films sur les collines environnantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet, Nicolas Pagnol ?
Oh, c'est un projet qui réunit un musée traditionnel, enfin d'envergure, j'espère de classe nationale voire internationale, et un musée en plein air, parce que Marcel, après avoir connu ses premiers succès au théâtre, va racheter tous les terrains de son enfance, les terrains là où il allait courir avec Lily Desbellon, tout le massif du Garlaban, et par la suite, eh bien il va y réaliser quasiment l'intégralité de ses films. Et il va construire des décors en dur, en pierre de taille. Il y a encore quelques vestiges, la ferme d'Angèle, le village d'Aubignan qui a servi pour le tournage de Regain, le moulin de Maître Corny, dans son adaptation cinématographique des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, différentes choses que j'aimerais reconstruire pour faire un grand musée à ciel ouvert, gratuit, pour que tout le monde puisse s'y promener. C'est un endroit magnifique. Voilà, c'est une réserve classée Natura 2000, et j'aimerais lier et les parcours phonistiques et le parcours culturel, cinématographique, et bien sûr aussi de l'enfance de Marcel.
Mais écoutez, on a hâte, en tout cas, de pouvoir découvrir ce lieu. Merci beaucoup, Nicolas Pagnol. Je rappelle la parution dans la collection Marcel Pagnol du premier tome de La prière aux étoiles, la BD adaptée de son film Détruit. Justement, elle est signée Eric Stoffel, Serge Scotto, Iñaki Olgado et Marco. C'est aux éditions Grand Angle. Merci beaucoup, Nicolas Pagnol, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, pour plonger dans l'intimité de l'histoire, il y a deux méthodes. Regarder discrètement par le trou de la serrure, ou bien trouver un pied de biche et défoncer cette porte. Elle est clairement partisane de la deuxième méthode. L'heure est venue de retrouver Clémentine Portier-Kaltenbach derrière la porte aujourd'hui, Carmen, la sulfureuse.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires avec ses notes, mais sans fausses notes. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui, Clémentine, on part à l'opéra, la rencontre d'une... Bon, c'est l'opéra le plus joué au monde, c'est d'une certaine Carmen, mais alors elle était plus sulfureuse encore que ce qu'on raconte.
Oh, plus sulfureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'époque, au moment de la création de l'opéra, la première a eu lieu le 3 mars 1875, l'accueil a été glacial, parce que Carmen choquait le bourgeois. Et sur le moment, on s'est dit, ça va faire un fiasco, ce truc-là ne va jamais marcher. Donc, Carmen, tout le monde connaît, opéra comique en 4 actes, dont l'action se situe, vous savez où elle se situe, l'action
sur les
Mathieu
remparts de Séville.
Oui, exactement.
Sur les remparts de Séville.
Exactement. Je suis mon ami. Et bon, bref, alors, et le livret est inspiré d'une nouvelle de Prosper Mérimée. L'action, elle se déroule en 1820 à Séville. Et Prosper Mérimée, lui, il est mort depuis 5 ans lorsqu'a lieu la première. Donc, il n'a pas eu l'occasion de voir ce qu'on avait fait de sa nouvelle. Bizet, alors malédictionne de Carmen, sans doute Bizet ne survivra guère à Mérimée. Trois mois, jour pour jour, après cette première, il meurt d'un infarctus après avoir pris froid alors qu'il se baignait dans la Seine à Bougival.
Chose qui
aujourd'hui serait quand même assez impossible. Il faut dire qu'il s'est tué littéralement au travail pour Carmen. Dans ses lettres, il écrit « Je travaille à me crever, je mène une existence insensée ». Au départ, on lui a demandé une petite œuvre gaie, légère, facile, qui finisse bien. C'est pour l'opéra comique, il faut faire une œuvre dans l'air du temps, et façon Offenbach un peu. Et puis, Bizet va faire travailler les librettistes d'Offenbach, Meillac et Halévy. Donc, eux, ils poussent pour l'adaptation d'une nouvelle un petit peu plus légère. Mais finalement, après... Bizet, lui, travaille 3 mois sans répit, il va écrire en 3 mois 1200 pages de partition. C'est un cauchemar. Il assiste à toutes les répétitions, il bataille avec les chanteurs, parce que il veut leur demander de bouger. À l'époque, les chanteurs bougent pas, ils se plantent sur scène. C'est pas du tout dans l'habitude des chanteurs lyriques d'accompagner le geste à la parole. Donc la première de Carmen est un désastre. Les chanteurs sont médiocres, les musiciens sont mauvais, les chanteurs changement de décor entre les actes n'en finissent pas. Les spectateurs quittent la salle les uns après les autres. Mais non seulement ça, mais la critique trouve l'histoire indécente. Qu'est-ce que c'est que cette femme sans foi ni loi, sulfureuse, qui passe des bras d'un amant au bras d'un autre? Et la morale bourgeoise de l'époque ne peut s'accommoder d'un tel récit. N'oubliez pas qu'on est alors au lendemain de la guerre contre les Prussiens, on est au lendemain de la Commune, c'est un contexte de rigueur morale. C'est le moment pendant lequel on édifie le Sacré-Cœur à Paris, en expiation des péchés de la Commune. Et donc, Carmen, ça va pas du tout. Elle est trop libre, elle est volage, elle est sensuelle. On va créer le personnage de Michaela. Vous savez, dans Carmen, je m'appelle Michaela. C'est Loi Blanche, la blondinette, là, qui vient voir Don José. Bon, elle est bien sous tout rapport. C'est l'image de la pureté, de l'ingénuité. Enfin, Carmen choque davantage le spectateur que Michaela ne le rassure. Qu'est-ce que c'est que cette gourgandine? Et pour couronner le tout, dans cette œuvre scandaleuse, Carmen est tuée sur scène par son amant déchu. Le directeur de l'opéra comique, Adolphe de Leuven, avait bien prévenu à Lévy, il lui dit « Mais Carmen, assassinée par son amant à l'opéra comique, le théâtre des familles, le théâtre des entrevues de mariage, mais vous allez mettre notre public en fuite, c'est impossible, je vous en prie, tâchez de ne pas la faire mourir. La mort à l'opéra comique, ça ne s'est jamais vu, entendez-vous? Jamais, jamais !» Trop tard, le mal est fait, humilié, Bizet se cache dans les loges. Dans le journal Le Siècle, Carmen est vilipendée. C'est une Carmen absolument enragée. Il faudrait la bâillonner et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés en l'enfermant dans une camisole de force après l'avoir rafraîchie d'un pot d'eau froide versée sur la tête. Alors, mais ailleurs qu'en France, nul n'est prophète en son pays. Carmen va connaître un succès rapide à Vienne où il l'entend dès la fin de cette année-là, fin 75, 1875. Le compositeur Brahms crie au chef-d'œuvre et il assiste à 20 représentations. Et Tchaïkovski, de son côté, déclare d'ici 10 ans, Carmen sera l'œuvre la plus célèbre de toute la planète. C'est toujours vrai, pas loin de 140 ans plus tard. Quant à Nietzsche, il écrit dans le cas Wagner, cette œuvre vaut pour moi un voyage en Espagne. C'est un exercice de séduction irrésistible, satanique, ironiquement provoquant. C'est ainsi que les anciens imaginaient Eros. Je ne connais rien de semblable en musique.
Waouh!
Magnifique, mais surtout,
merci,
moi je découvre que Bizet n'a pas découvert mais que non. son œuvre avait eu cette postérité.
Non, alors voilà, comme il est mort 3 mois
il
plus tard,
il est mort sans savoir.
On ne saura jamais s'il aurait jeté sa Carmen aux orties, voilà. ou si au contraire il aurait dit, les gars, je suis un génie et je meurs trop tôt dans un monde trop vieux.
Il n'a pas réagi aux critiques de l'époque, il n'a pas dit justement, je suis un génie, vous comprenez rien.
Non, mais écoutez, en tout cas, non, c'est bizarre, voyez-vous, parce que le même jour de cette première, on a commencé par le décorer de la Légion d'honneur. Et à la fin de la représentation,
lui enlever.
Il va se cacher dans les coulisses, oui.
Tristesse.
Merci Clémentine.
Merci beaucoup Clémentine.
Vous racontez si bien les histoires.
Encore un qui a connu beaucoup d'honneurs et qui va peut-être partir se cacher dans les coulisses.
Mais
c'est
vous
Stéphane
dites ça
Bern.
Chaque jour et chaque Allez jour je m'en sors avec les honneurs.
C'est vrai, vous brillez dans ce quiz
non,
de plus
je
en plus.
Briller,
mais si vous brillez, ne soyez
pas
modeste.
Oui, vous êtes l'un et le contraire, vous êtes l'eau et le feu, vous êtes... Mais on ne vous comprend plus Mathieu Noël.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Le moment fatidique de l'affrontement intellectuel a sonné. Notre célèbre quiz qui oppose deux des plus beaux esprits d'Europe 1, Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, je ne vous pose pas la question, la vivacité se lit dans votre regard. Stéphane, vous, est-ce que vos neurones sont prêts ?
Tout est prêt, il n'y a plus qu'à décongeler.
Parfait, jouons à Bern to be alive. La décongélation s'est
pas
bien passée.
Cet extrait.
Les neurones sont prêts. Nous pouvons y aller, Stéphane. Première question pour vous. 19 septembre 1783. On le sait, vous le savez en tout cas, Stéphane. Un mouton, un canard et un coq sont les premiers êtres de l'histoire de l'humanité à s'envoler dans les airs, dans un panier en osier devant Louis XVI et la famille royale. Ils vont aller à 600 mètres d'altitude. Ils atterrissent dans le bois de Vaucresson. Ils sont récupérés vivants, mais seront cuisinés le soir même. Vrai ou faux?
Ah là là, Pilâtre du Rosier. Est-ce qu'ils seront cuisinés?
Je ne sache pas qu'ils aient été cuisinés.
Je suppose,
Stéphane, que comme on connaît cette anecdote, on l'aurait vu passer avec cette histoire-là. Ouais. On n'a pas sacrifié les premiers hôtes de l'air. Ça aurait été vraiment cruel.
Donc c'est faux.
C'est faux et je vais vous dire mieux. Ça serait scandaleux.
Ça serait scandaleux.
Moi, je vois bien Marie-Antoinette les récupérer dans son hameau,
dans
par
son hameau de la reine.
Pour honorer ces voyageurs.
En fait, je sens qu'ils vont être cuisinés, mais je ne peux pas m'y résoudre.
Vous avez gagné.
Vous avez parfaitement raison, Stéphane. Et avec la complicité de Clémentine, vous avez même apporté la bonne réponse. Au contraire, ces animaux auront l'honneur suprême d'être admis à la ménagerie de Versailles. Mmh, oui. Effectivement, 2 mois plus tard, un homme devient le premier homme d'un vol habité, Jean-François Pilâtre de Rosy.
J'avais donné son nom.
Vous aviez donné son nom, ce qui ne vous donne pas de points supplémentaires.
Non, mais vous savez, c'est bien quand même d'avoir l'air de connaître.
Oui, mais vous avez plus que l'air de connaître. Vous connaissez Stéphane. Hein. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le livre de la jungle. Bien, ce livre a été publié en 1894, écrit par le Britannique Rudyard Kipling. On y trouve Balou, Bagheera et Shere Khan, respectivement l'ours, la panthère et le serpent. Ces 3 noms n'ont pas été donnés par hasard. Ce sont 3 noms de divinités celtiques. Vrai ou faux ?
Bagheera, de divinités celtiques, dites-vous ?
C'est ce que je dis. Balou, Bagheera et Shere Khan.
Moi, je pense que ces noms pourraient avoir un sens, mais pas chez les Celtes. Enfin, ça fait très indien comme consonance. Hein. Ça serait le nom des noms tirés du panthéon indien hindou, me semble-t-il. Bagheera, ça sonne pas du tout celte. Balou, pas du tout celte non plus, me semble-t-il. Non, je réponds non.
Vous avez gagné.
Et oui, ce n'était pas un piège, c'était faux, c'est une bonne réponse. Rudyard Kipling a vécu 6 ans en Inde avant d'écrire le livre de la jungle. Vous l'aviez deviné, Balou, Bagheera et Shere Khan, ça veut dire tout simplement ours, panthère et serpent en hindi. Tout bêtement, il ne fallait pas les chercher midi à 14h. Question numéro 3 pour vous Stéphane. La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. Victor Hugo. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Marcel Proust.
Voici deux auteurs majeurs de la littérature française avec une certaine joie de vivre et qui avaient un point commun, celui de faire des phrases à rallonge. Qui des deux a le record de la phrase la plus longue ? Hugo dans Les Misérables ou Proust dans Sodome et Gomorre ?
Ah, intéressant.
A priori, je dirais Proust dans Sodome et Gomorre, mais je suis sûr qu'il y a un piège.
Pas forcément. Est-ce que vous connaissez cette phrase ? Si vous nous dites la phrase, vous avez 30 points.
Je l'ai lu 100 fois et notre ami Franck Ferrand nous l'a lu 25 fois.
Le champion de
je dirais Marcel Proust.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, une phrase de 856 mots dans Sodome et Gomorre, alors que Victor Hugo ne fait que la phrase de Victor Hugo ne fait que 823 mots dans Les Misérables. C'est déjà pas mal quand même. Hein. On est quand même pas loin. On est à touche-touche. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous l'espériez, la voici. Une question sur le Titanic. En 1945, un autre drame maritime a été trois fois plus meurtrier que le Titanic. C'était le naufrage du paquebot allemand Wilhelm Gustloff, du nom d'un militant nazi. Vrai ou faux ?
En 1945, Wilhelm Gustloff ?
Wilhelm Gustloff, du nom d'un militant nazi. Est-ce vrai ou faux ?
C'est le nom qui m'intrigue.
Un drame qui aurait été trois fois plus meurtrier que le Titanic.
Oui, mais il y a eu il y a eu des drames plus meurtriers que le Titanic. Ce qui frappait, c'est la coïncidence entre son lancement qui venait d'avoir lieu, les investissements énormes faits sur ce bateau et son naufrage aussi rapide. Mais il y a eu certainement eu des naufrages plus meurtriers.
Néanmoins, réfléchissons bien quand même avant de répondre, avant de nous jeter comme ça dans la réponse. La question ne porte pas tant sur le nom de ce bateau, mais sur le drame qui aurait été trois fois plus meurtrier que le Titanic.
Trois fois plus meurtrier, il y aurait donc eu 3 à 4 000 morts, ce qui est quand même beaucoup, effectivement. Oui. Bon, alors, mais je n'ai plus confiance en vous du tout, c'est ça, même le regard torve là.
Pourtant, vous devriez.
Ne m'inspire pas confiance. Alors, je pense que oui, ce bateau a dû sombrer, il portait le nom d'un dignitaire nazi, mais ça n'a pas été 3 fois plus meurtrier que le Titanic, donc ma réponse est non.
Vous avez.
Oh Stéphane, elle est imprenable cette Clémentine Portier-Kaltenbach.
Mais bien aidée, mais c'est bien.
Pas du tout.
En fait,
c'est faux. Mais oui, c'est
mais
faux.
Mais pas pour les bonnes raisons.
Pas pour les bonnes raisons. Oui, puisque ce fut 6 fois plus dramatique que
Mais il portait pas le nom de Wilhelm Gustloff.
Tout à fait.
Mais c'est pas
Stéphane.
Un militant nazi.
Exactement. C'était un militant nazi. Je vais vous raconter l'histoire. On est en 1945. Donc déjà le bilan 6 fois plus dramatique que le Titanic. Le Titanic, c'était pour rappel 1490 âmes qui ont péri. Ouais. Le 30 janvier 1945, un sous-marin soviétique torpille un paquebot allemand, 9000 morts. Mais en étant 45, à côté des millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, c'est passé un peu inaperçu. Heureusement qu'Historiquement Vôtre est là pour se souvenir des morts du Wilhelm Gustloff. Et nous sommes face à la question numéro 5. Je rappelle.
Oui, que c'est un chiffre cette fois. On a le droit de donner
le numéro.
Exactement. D'accord. L'idée est d'être le plus rapide possible. Hérostrate a vraisemblablement vécu en 356 avant Jésus-Christ. Il est celui qui a mis le feu au célèbre temple d'Artémis à Éphèse, un édifice qui fait partie des 7 merveilles du monde antique. Mais pourquoi a-t-il mis le feu ? Pour être célèbre ? Pour dégager la vue, car depuis sa maison, il voulait voir la montagne du Bubuldag ? Parce que le temple était à la gloire d'Artémis, dieu de la chasse, et il considérait que les chasseurs étaient de gros beaux favinés, incapables de faire la différence entre une biche et un cycliste. Mais que faire ? Que faire ? Une double bonne réponse simultanée ? Que faire ? Une double victoire. Une victoire collégiale. Bravo Stéphane, Clémentine.
Faut qu'on fête ça.
Hein. Oui, on va fêter ça.
Il avait effectivement, c'était un pyromane, il a mis le feu pour être connu. Le temple est totalement détruit, sera reconstruit ensuite. Après avoir été torturé, Hérostrate avoue, il voulait juste être connu. Les Éphésiens interdisent alors que son nom soit cité dans Historiquement Vôtre. Nous, bravo, c'est interdit. Désolé les gars. Belle double victoire aujourd'hui dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre et avouez que c'est bon.
C'est bon Stéphane.
Non, je parle à nos auditeurs Mathieu.
Pardon.
Historiquement Vôtre, chaque après-midi, ces trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui se rencontrent tout de même dans le studio Coluche. Si on les réunit, c'est qu'ils ont un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir cherché à détruire leurs propres œuvres. Après Marcel Pagnol, je vais vous parler d'une autre artiste de génie, Camille Claudel, que la folie a poussée à détruire ce qu'elle avait créé, ses sculptures. Quant à vous, Mathieu, c'est un artiste plus contemporain que vous avez choisi d'évoquer.
Oui, si certaines œuvres font pchit, d'autres font... C'est très rigolo, sauf pour ceux qui les ont achetées. Je vous parle cet après-midi d'un électron libre de l'art contemporain nommé Banksy. Et puis, n'oublions pas, évidemment, nos fascinantes chroniques, Stéphane, portées par des chroniqueurs non moins fascinants, à commencer par celui qui, prétend trop souvent à ses expériences personnelles un caractère universel, a découvert dernièrement en direct que non, tout le monde n'avait pas dans son enfance joué au jeu dit de la quéquette à Chirac. On lui conserve malgré tout notre confiance, Stéphane, c'est David Castello-Lopez. David, chaque jour, l'origine d'une invention.
Oui.
Aujourd'hui,
tout à fait quelque chose qui peut faire partie de notre quotidien aujourd'hui, vraiment, c'est pas toujours le cas, et c'est les assistants vocaux, vous savez.
Dis Siri.
Voilà, dis Siri, ou OK Google, fais-moi des bisous, vous voyez.
Il ne fait pas de bisous. Que répond Google dans ce cas-là.
Oh non.
Vous êtes chaud, vous avez dû tenter des trucs. Ah, vous avez dû tenter des sacrées coquineries. Olivier Pouls est avec nous également, Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une recette.
Mais oui, mais là, c'est d'où vient les traditions des services à table, service à l'assiette, service à la française, service à la russe, service à l'anglaise, service à la portugaise, service à l'américaine.
Vous allez faire tous les pays du monde.
J'espère que Olivier Pouls
service
sera
à
tout
roumaine, service à la belge,
service à la
italienne.
Ah, le service à la Daumont, c'est ce que je préfère.
Alors vous avez bien bossé, j'ai l'impression que Stéphane connaît mieux le sujet que vous, donc j'espère que vous êtes au point, hein, Olivier.
On verra ça tout à l'heure.
C'est épisode. Vous savez, on n'est pas obligé de le faire. C'est un peu comme le viandox, vous voyez. On n'est pas obligé de le faire en une seule fois. Non, on peut en déguster dans plusieurs émissions.
Ouais, et puis c'est tellement riche comme sujet que, autant s'étendre un peu. Hein.
Vous avez raison.
Pas de recette aujourd'hui, en revanche.
Pas de recette, exceptionnellement, mais
on est au régime. Il faut dire qu'on est au régime.
Au régime pour tout le monde. Le mot de la fin, c'est Stéphane Bern qui l'aura, évidemment. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, pourquoi dit-on
avoir la poisse.
La poisse.
Oui, la poisse. D'où ça vient, poisse? Ça vous fait penser à quoi, la poisse?
C'est un matériau, la poisse, le poids.
Poisson.
C'est poisseux.
Ah bon poisseux. Oui, tout ça, c'est la
tout
même
ça,
origine.
Tout ça, c'est lié. Nous remonterons aux origines de la langue française avec vous, Stéphane. Et tout de suite, les amis, découvrons notre deuxième artiste qui a détruit ses propres œuvres. Set back and relax. Stéphane Bern nous raconte Camille Claudel.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle est plus qu'une artiste, elle est une icône, au nom à jamais associé à celui de Rodin, et dont on ne retient finalement que le tragique destin. À cause de lui, à cause d'elle également, elle s'est auto-détruite et a détruit ses propres œuvres. Stéphane Bern nous raconte Camille Claudel.
Nous voilà rue Notre-Dame-des-Champs à Paris en 1882. Camille Claudel a 18 ans. On la retrouve dans le petit atelier qu'elle occupe chaque jour pour se consacrer à son art. Voilà 2 ans que la famille Claudel a quitté sa campagne de l'Aisne, cette terre riche où Camille a découvert très jeune sa vocation. La petite fille au caractère bien trempé aimait pétrir la glaise et modeler la terre. Ses premières sculptures, c'était des têtes d'hommes, ceux qu'elle voyait dans ses livres d'histoire de César à Napoléon en passant par Bismarck. Et puis un jour, l'artiste Alfred Boucher décèle son talent et fait de Camille son élève. Tous les vendredis, il vient à l'atelier pour constater les progrès de sa protégée. Sauf qu'aujourd'hui, il lui annonce son départ prochain pour l'Italie où il travaillera pendant 1 an. Mais pas de panique, il s'est trouvé un remplaçant, un artiste reconnu qui saura transmettre son savoir-faire à la jeune femme. Quelques jours plus tard, le nouveau professeur de Camille l'attend à 2 pas de la Seine, au dépôt des marbres où son atelier est installé. Sur la porte d'entrée, Camille lit un M capital, le M de maître. Et la voilà, qui pénètre dans une véritable caverne d'Ali Baba. Ci et là, des peintures par dizaines sont entreposées pêle-mêle, des statues recouvertes de drap blanc sont plus nombreuses encore. Au fond de l'atelier, un échafaudage en bois recouvre une œuvre monumentale, et dans une autre pièce, des hommes et des femmes posent en tenue d'Ève ou d'Adam. Camille est émerveillée. Elle est ici dans son élément, pas de doute là-dessus. Enfin, le maître des lieux fait son entrée. Camille se trouve face à un homme massif et assez trapu. Il a les cheveux blonds, une barbe imposante et ses yeux bleus, comme ceux de Camille, sont cachés derrière une petite lorgnette. À 42 ans, Auguste Rodin est un sculpteur reconnu. Il attend beaucoup de sa nouvelle apprentie et une chose est sûre, il ne la ménagera pas. Ici, on met les mains dans le plâtre et dans la terre sans broncher. Très vite, Camille Claudel se montre plus qu'à la hauteur. C'est une travailleuse acharnée qui ne compte pas les heures passées à perfectionner l'œuvre de celui qu'elle appelle Monsieur Rodin. Et Monsieur Rodin, quant à lui, ne voit pas seulement le talent de la jeune femme. Il est aussi très sensible à son charme. Si bien que la jeune Claudel devient son modèle. Rodin sculpte son visage, ses lèvres charnues et les mèches rebelles qui retombent sans cesse sur son front. Camille va-t-elle jusqu'à poser nue face à lui ? On ne le sait pas, mais la suite de l'histoire pourrait semer le doute. Car la relation entre l'élève et son maître se meut bientôt en passion dévorante. Auguste est fou de Camille, de 24 ans sa cadette. Il lui envoie les lettres enflammées que chacun aimerait trouver dans sa boîte aux lettres. « Je t'aime avec fureur, près de toi mon âme existe avec force. » Et dans les missives les plus coquines, « Toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. » Entre Camille et Auguste, c'est la passion, la vraie. Mais cet amour incandescent finit par consumer Camille à petit feu. Elle voudrait Rodin pour elle seule. Oui, mais lui vit en concubinage avec une autre depuis près de 20 ans. Tous les jours, il la rejoint dans leur appartement parisien et laisse Camille désespérément seule. En fait, elle n'aura jamais d'autre statut que celui de maîtresse. Et tout cela, en plus de la plonger dans un profond chagrin, lui vaut bien des jugements de la part de sa famille. À commencer par Madame Claudel, qui ne perd jamais une occasion de critiquer sévèrement sa fille. De toute façon, elle lui a toujours fait honte. Après 10 ans de tumulte, c'en est trop pour Camille. Mais si la liaison entre elle et Rodin se termine, la descente aux enfers, elle, ne fait que commencer. Camille Claudel est une femme blessée qui sombre progressivement dans la paranoïa. Elle est persuadée que cette canaille de Rodin veut lui nuire. La sculptrice assure à qui veut l'entendre que cette fouine d'Auguste l'espionne dans le but de lui voler ses idées. Elle dit aussi qu'il veut sa mort et qu'il cherche à l'empoisonner à l'arsenic. Alors Camille se barricade. Elle s'enferme dans son atelier, situé au numéro 19 du quai Bourbon sur l'île Saint-Louis, et vit dans la pénombre derrière ses volets clos. Le jour, les voisins l'entendent tailler la pierre à coups de marteau. La nuit, c'est parfois un hurlement qui vient briser leur tranquillité. À l'intérieur de l'atelier, c'est un bric-à-brac d'œuvres inachevées. Il n'y a pas de meubles et la poussière a tout envahi. Camille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quand le vin rouge ne suffit plus à éponger sa peine, elle casse ce qui l'entoure. Voilà qu'elle s'empare d'un marteau pour écrabouiller des sculptures par dizaines, qu'elle prend ses esquisses de cire et les jette au feu. Tous ses plâtres réduits en miettes, elle les entasse dans une brouette pour les jeter dans la Seine. Le 10 mars 1913, la famille Claudel décide qu'il faut agir. Ce matin-là, un fourgon s'arrête devant l'atelier de Camille. Deux infirmiers en sortent avant de briser une fenêtre et d'empoigner Camille de force pour l'embarquer. Elle a 48 ans et ne remettra plus jamais les pieds dans son atelier. Contre son gré, Camille est conduite à l'asile des fous de Ville-Évrard. 8 jours plus tôt, le père Claudel est mort. C'était le seul qui s'opposait encore à l'internement de sa fille Camille. À peine son mari est-il sous terre que Madame Claudel s'est empressée de signer une demande de placement. À l'asile, les médecins qui examinent Camille concluent à un délire de persécution. Camille recouvrera-t-elle un jour sa liberté ? Rien n'est moins sûr. Des cousins de la famille orchestrent une campagne de presse pour s'insurger contre cette mesure d'internement qu'ils jugent abusive. Résultat, Madame Claudel interdit toute visite à sa fille. Ce 10 mars 1913, Camille Claudel est entrée à l'hôpital psychiatrique pour ne plus jamais en sortir. Personne, pas même le vieux Rodin, si bouleversé soit-il par la nouvelle, ne viendra jamais la délivrer. Le calvaire dure 30 ans et Camille Claudel s'éteint dans le plus grand silence. Mais ses œuvres de bronze, de marbre et de grès, qui sont toujours là, témoignent de la douceur d'âme de cet artiste hors pair qui savait comme personne modeler la délicatesse, la sensualité et l'amour.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Camille Claudel, nous sommes à présent avec le conservateur Bruno Godichon. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Oui, Bruno Godichon, vous êtes conservateur et directeur de la piscine, le musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix. Vous êtes l'un des contributeurs de l'ouvrage Camille Claudel au miroir d'un art nouveau, publié chez Gallimard, mais vous êtes surtout l'une des personnes qui a contribué à faire redécouvrir l'artiste et ses sculptures à la fin des années 70. Au fond, racontez-nous, quel a été votre rôle ?
Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai fait un stage au musée de Poitiers à la fin des années 70, et que dans les collections du musée de Poitiers, pas présentées à l'époque, se trouvaient trois bronzes de Camille Claudel qui ont attiré mon regard. Mais à ce moment-là, plusieurs personnes travaillaient ou commençaient à redécouvrir l'œuvre de Camille Claudel. Et moi, j'ai très vite travaillé avec Anne Rivière, qui travaillait elle, déjà depuis de nombreuses années sur la question des femmes sculpteurs. Et ensemble, nous avons monté une exposition en 1984 qui s'est successivement tenue au Musée Rodin à Paris et au Musée de Poitiers. Et c'est une artiste qui ne vous lâche pas quand vous l'avez côtoyée un moment. Et on continue avec Anne Rivière à travailler sur Camille Claudel.
Est-ce que, Bruno, vous avez réussi à mesurer l'ampleur des œuvres qui ont été détruites par Camille Claudel? On a un nombre d'œuvres, on sait précisément lesquelles, ou ça reste un peu entouré de mystères?
Non, ça reste entouré de mystères. De fait, il y a une seule œuvre pour laquelle on peut être sûr qu'elle l'a détruite, puisqu'elle en parle dans un courrier fin 1912 ou tout début 1913. Ce qu'on sait, c'est que peut-être que plus probablement une partie des œuvres disparues a disparu après l'internement quand l'atelier a été vidé. Enfin, tout ça est assez difficile à démêler. On sait que le grand percé en plâtre, effectivement, a été détruit par elle quand elle a appris le décès de son cousin Thierry. Elle dit que ça l'a mis dans une rage folle et qu'elle a jeté des esquisses en cire dans le poêle et qu'elle a détruit à coups de marteau le grand percé en plâtre.
Il y a aussi beaucoup d'œuvres inachevées, en revanche.
Oui, elle avait dans son atelier, mais comme c'est le cas dans tous les ateliers de sculpteurs et de peintres, à la fois des œuvres achevées et des études, ce qu'on appelle les abattis, hein, des bras, des jambes, des têtes. Donc, possiblement, une partie des œuvres aurait été détruite au moment où la famille a vidé l'atelier. Ça paraît pas improbable. Il y a encore beaucoup de secrets.
Il y a beaucoup de mystères, mais vous qui avez épluché toute sa correspondance, puisque vous avez publié ses correspondances, est-ce que vous avez...
Avec Anne Rivière, oui.
Est-ce que vous avez trouvé des... en rassemblant les pièces du puzzle, vous avez trouvé des éléments de compréhension de ces gestes un peu fous qu'elle aurait pu commettre?
Alors, c'est assez compliqué. D'abord, encore une fois, dans la correspondance, il n'y a qu'une œuvre qui évoque un sacrifice avec le percé, il n'y en a pas d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les ateliers de sculpteurs devaient régulièrement faire l'objet d'un ménage, si vous voulez, parce que c'est surtout cette grande sculpture du 19e siècle à laquelle elle aspire quand même toute sa vie, l'encombrait dans son atelier. Donc, elle a pas systématiquement détruit, puisqu'elle a aussi donné à des musées. C'est pas non plus une artiste qui a eu une production énorme. En tout cas, ce qu'elle a produit avant 1898, pour l'essentiel, on en a la trace par le récit de Mathias Morard. Et après 98, il semble bien quand même que la production ait plutôt été du recyclage des œuvres antérieures.
Bruno Bédichon, sur sa relation avec Rodin, est-ce que c'est Rodin qui rend Camille Claudel folle ou Camille Claudel avait déjà une faille psychologique, on dira, elle avait une tendance comme ça à l'auto-sabordage? Est-ce qu'on... c'est clair, ça, on le sait?
Le dossier psychiatrique a été publié il y a déjà plusieurs années. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a... En 1913, quand elle a été internée, c'est pas un internement abusif. Il fallait faire quelque chose. Et peut-être que, en souhaitant la protéger, son père a fait reculer l'échéance. Et peut-être que si elle avait été prise en charge quelques années plus tôt, la question aurait été moins définitive. Ce qui est certain, c'est que, si vous voulez, elle a cassé les codes de la bourgeoisie du 19e siècle dans cette relation avec Rodin. Donc, quelque part, c'est une jeune fille de la bourgeoisie qui est embarquée dans cette aventure qui, au bout d'un moment, ne l'a plus satisfaite. Elle avait cassé le bastingage social qui l'aurait peut-être aidée. Voilà, à partir du moment où cette histoire avec Rodin a tourné comme elle a tourné, avec probablement en plus un ou deux avortements au début des années 1890, il y avait quand même matière à perdre pied.
Rodin disait « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle. » C'est vrai que l'un et l'autre se sont influencés. Camille Claudel a été sculptée, façonnée par Rodin, mais lui aussi a été influencé par elle.
Oui, je dirais que la rencontre artistique, elle n'est pas le fait du hasard. Il y avait quelque chose d'un peu prémédité. Quand Paul Dubois voit ses travaux de toute jeune fille à Nogent, il lui dit « Mais vous avez pris des cours avec M. Rodin, dont elle n'a jamais entendu parler. Elle avait cette nervosité, cet expressionnisme dans les œuvres de jeunesse qui la mettaient comme ça naturellement dans l'orbite de Rodin. Ensuite, elle a participé réellement à la construction de l'œuvre de Rodin, puisqu'elle avait déjà en charge des exécutions de détail, des pieds, des mains. Pour les grands groupes, c'était vraiment un travail dans l'atelier, comme dans l'Italie de la Renaissance. Et les œuvres qu'on fait dans l'atelier, elles appartiennent globalement à l'atelier. C'est bien pour ça qu'il y a certaines œuvres qui sont troublantes, dont notamment la jeune fille et la gerbe qu'elle offrira au peintre Léon Lhermitte et que Rodin reprend dans son groupe de Galatée.
Il y a un échange intellectuel et artistique. En tout cas, merci beaucoup Bruno Godichon. Je rappelle,
c'est moi qui vous remercie.
Non, merci. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle l'ouvrage auquel vous avez collaboré, Camille Claudel, au miroir d'un art nouveau, et qui est publié chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci. Bonne fin de journée.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, Historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages de l'histoire qui ont détruit leurs propres œuvres. Et après Marcel Pagnol et Camille Claudel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un artiste dont la destruction de l'œuvre fait partie elle-même de l'œuvre.
Oui, on peut formuler ainsi les choses. Stéphane, on peut aussi dire de manière peut-être un peu plus simple que Banksy, en inscrivant dans l'anthologie picturale de son œuvre son autodestruction, transcende finalement sa finitude.
J'ai pas compris tous les mots de la phrase.
Moi non plus, mais Banksy, oui.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces artistes qui ont détruit leurs propres œuvres. Après Marcel Pagnol et Camille Claudel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une légende vivante du street art, un artiste aussi coté que mystérieux, Banksy.
Vous le dites si bien. Oui, Stéphane. J'ai du mal à dire Banksy. Oui, Stéphane, des artistes qui détruisent leurs œuvres, ça peut arriver pour mille et une raisons. Vous-même, Stéphane, je sais qu'il vous arrive de jeter à la poubelle celle de vos sculptures en pâte à sel que vous jugez indigne d'être montrée au public ou offerte à vos collègues lors du traditionnel pot de fin de saison, un contrôle qualité que vous avez mis en place après l'incident de l'année dernière quand Wendy Bouchard avait cru que vous lui offriez un plug alors qu'il s'agissait simplement d'un astucieux bouchon stop-goutte pour le vin. En outre, la possibilité de détruire son œuvre est une éventualité à laquelle on aimerait que certains artistes réfléchissent, on embrasse Kinvey et Fabien Ottoniente. Banksy, lui, je vous rassure, ne détruit pas systématiquement ses œuvres. Seulement, l'une d'entre elles dont nous allons parler est selon un procédé qui est lui-même une performance artistique. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Banksy, le street artiste anonyme, le vengeur masqué du pinceau urbain. Nul ne sait qui est Banksy, sauf, j'imagine, sa maman. L'anonymat dont il s'est entouré fait partie intégrante de son œuvre. Tout ce qu'on sait physiquement de lui, on le doit au journal Le Guardian, qui l'a interviewé en 2003 et le décrit ainsi. Blanc, 28 ans, débraillé, décontracté, jean, t-shirt, une dent d'argent, chaîne en argent et boucle d'oreille en argent, il ressemble à un croisement entre Jimmy Nail et Mike Skinner de The Streets. Vu que comme moi vous ne visualisez certainement ni l'un ni l'autre, ça ne fait guère avancer le schmilblick. Évidemment, le journal ne révèle pas qui il est. Ça se trouve, Banksy, c'est un des deux Daft Punk, ce qui ferait de lui un des mecs les plus riches du monde. Brillant, unique, idiosyncratique, j'adore utiliser ce mot même si vous voyez j'ai du mal à le prononcer, absolument pas académique, peut-être un peu alcoolique aussi, Banksy est incontournable et indissociable du mouvement street art, un art qui mêle politique, humour noir et satire mordante pour remettre en cause les fondements même de notre société. Il surprend, choque parfois, mais surtout, il nous éduque via la métaphore et l'analogie. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui n'aiment pas le travail de Banksy, Stéphane ?
Pecno.
Non, découvrez-le, ne soyons pas snobs, Stéphane. Non, bien qu'à ce jour, Banksy n'a jamais officiellement été identifié, il est possible de retracer une bonne partie de son histoire et de sa carrière. Il serait né en 1974 ou 75 à Bristol, en Angleterre. Je sais que c'est le son que j'avais utilisé pour Manchester sous la pluie, mais croyez-moi, ça marche aussi pour Bristol en 74. Quand il commence à s'adonner au street art, nous sommes à la fin des années 80. Moi, je mange des chocopops devant sa cartoon. David enchante ses camarades en leur faisant
la quéquette à Jacques Chirac.
Banksy, lui, se dit, et si au lieu de faire la quéquette à Chirac, ou son équivalent britannique de l'époque, la touche à Maggie, je me lançais dans une entreprise de sabordage du capitalisme par le prisme de l'art. Oui, Banksy, dès son adolescence, est un gars qui en a dans le ciboulot, plus en tout cas que David et moi. Il signe ses premiers graphes dans le quartier assez craignos de Barton Hill, à Bristol, des graphes qu'il ne signe pas encore Banksy d'ailleurs, mais Robin Banks, un pseudo rigolo en anglais en tout cas, puisque vous avez peut-être le jeu de mots, Robin Bank.
Voler les banques.
Voler les banques, voilà, bravo. Mais très vite, c'est le pseudonyme de Banksy qui s'impose, plus facile à retenir et plus rapide à écrire sur un mur. Pourquoi la rue d'ailleurs ? Il en parle dans une de ses rares interviews. J'ai commencé à peindre dans la rue parce que c'est le seul endroit qui m'a permis de m'exprimer. De plus, ça permet d'économiser de l'argent sur l'achat des toiles. Malin. Banksy commence donc en tant que graffeur avec le crew Bristol Dry Bread Z. Un crew au sein duquel il affine sa technique et en découvre d'autres, y compris celle qui va faire sa renommée mondiale. Je vous le donne en mille, David.
La quéquette non, à non, Jacques Chirac.
Le pochoir, David. Vous n'êtes pas très calé en histoire de l'art. Pourquoi le pochoir ? Eh bien, pour gagner en rapidité et pour échapper au keuf. Un jour, Banksy, a alors 18 ans, est en train de peindre un train avec sa bande d'amis lorsqu'ils sont dénoncés à la police par un riverain.
Navarro, j'écoute.
Oui, c'est Roger Hanon qui est en service ce soir-là. Me demandez pas pourquoi les flics débarquent. Tout le monde court dans tous les sens et tente de s'enfuir, sauf Banksy, qui lui reste planqué sous un camion Ben. Il entend les policiers interpeller ses camarades.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Du crack ? Du LSD ? Donnez-moi ça tout de suite, je vais le faire analyser à Montluçon.
Et c'est là qu'il comprend que s'il veut pouvoir réaliser des graphes de qualité rapidement, il doit trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite que ça. Ce moyen, c'est d'utiliser des pochoirs qui permettent en outre une plus grande complexité. Tous les graffitis sont un moyen un peu basique de s'exprimer, explique Banksy. Mais les pochoirs, ils racontent quelque chose en plus. Ils peuvent être utilisés pour déclencher des révolutions et arrêter les guerres. Alors qu'il commence à devenir célèbre, Banksy, tout révolutionnaire qu'il soit, a quand même la présence d'esprit de prendre un agent, puis carrément de créer sa propre structure, Pest Control, en charge de vérifier et de confirmer la paternité de ses œuvres, gérer son art et son business, quoi. Car c'est un trait commun à beaucoup d'anarchistes, Stéphane, ils veulent bien que le système capitaliste pète, mais pas avant d'avoir pris un petit pourcentage au passage. Sa première grande fresque murale connue s'appelle The Mild Mild West, jeu de mots, elle est peinte en 97 et recouvre un panneau de pub pour un ancien cabinet d'avocats à Bristol. Elle représente un ours en pluche lançant un cocktail Molotov à trois policiers anti-émeute. Oui, c'est très rieur. En 99, il débarque à Londres et adopte définitivement l'anonymat. Pourquoi ? Eh bien, d'une part pour échapper aux autorités, la grande majorité de son travail étant considérée comme illégale, mais également parce qu'il réalise que l'anonymat génère un buzz considérable. Banksy devient une star. Ses personnages fétiches aussi, ses singes, ses policiers, ses soldats, ses émeutiers, ses enfants, ses personnes âgées envahissent l'espace public. Il utilise aussi fréquemment les rats. Certains y voient une forme d'autoportrait d'un artiste qui achève ses œuvres illégales, protégé dans l'obscurité. Banksy en parle. Si vous vous sentez sale, insignifiant ou mal aimé, alors les rats sont un bon modèle. Ils existent sans permission, ils n'ont aucun respect pour la hiérarchie de la société et ils ont des relations sexuelles 50 fois par jour.
Ah oui.
Et puis le mot rat n'a-t-il également pas l'anagramme du mot art ? Eh oui, pas mal tout ça. Alors, je sais Stéphane ce que vous dites, ma grand-mère se dit pareil. Dessiner des choses sur les murs de la ville sans autorisation, c'est mal. Eh bien écoutez, l'argument de Banksy, il est assez percutant je trouve. Il dit pratiquer le brandalisme, du vandalisme de marque, en réponse à toute cette publicité dans la rue qui nous est imposée en permanence, sans nous demander notre avis. Ceux qui détruisent vraiment nos quartiers sont les entreprises qui barbouillent les bâtiments et les bus de leurs slogans géants, essayant de nous faire sentir moins que rien et pas à notre place si nous n'achetons pas ce qu'ils ont à nous vendre, dit-il. Ils le font sur toutes les surfaces disponibles et on ne nous autorise pas à leur répondre. Ce sont eux qui ont déclenché la bataille et le mur est une arme de choix pour les frapper en retour. Avouez que c'est convaincant comme argument, Stéphane.
Oui, non, non.
C'est aussi la conclusion à laquelle est arrivée ma grand-mère. Au début des années 2000, Banksy passe du simple pochoir sur un mur à des mises en scène plus complexes, à des pranks, comprenez, des blagues à grande échelle. Leur but, mettre en lumière notre culpabilité commune à gober des messages marketing, politiques ou médiatiques. En 2004, par exemple, il imprime l'équivalent de 1 million de livres sterling de faux billets sur lesquels il remplace le visage de la reine Elisabeth II par celui de la princesse Diana. Il les lance ensuite sur la foule lors du carnaval de Notting Hill. La même année, il se rend au Louvre pour la boutique de souvenirs et les bosquets d'enfants face pour lesquels on peut se faire une petite gâterie après 22h. Non, non, pour la Joconde, Stéphane. Sa mission est assez risquée, accrocher sa propre version de la Joconde dans le musée. Grâce à un déguisement, il réussit à se faufiler et expose sa Mona Lisa à lui, au visage jaune et souriant façon smiley qu'il a appelé tout simplement Mona Lisa Smile. Été 2006, Banksy flash sur Paris Hilton, non pas comme objet de désir, mais comme support parfait pour dénoncer l'absurdité de la télé-réalité. Il achète 500 exemplaires de son album, car oui, on l'avait oublié, mais Paris Hilton avait commis un album, et il les dispose dans les bacs de 48 disquaires, non sans avoir préalablement modifié la pochette, où on voit désormais Paris sortant d'une limousine devant des sans-abri, et les chansons qui s'intitulent désormais « Pourquoi suis-je célèbre ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » ou encore « À quoi je sers ?» des CD qui se négocient aujourd'hui aux environs de 860 euros sur eBay. Un autre coup de génie de Banksy a été d'habiller une poupée gonflable en prisonnier de Guantanamo et de la placer sur le parcours de l'attraction Le Train et la Mine à Disneyland en Californie. Placer un symbole de la dure réalité dans un lieu où l'on oublie tout, mettant en avant notre facilité à garder les yeux fermés, c'est tout Banksy, C'est Toumansky résumé dans ce prank. Idem quand il investit le zoo de Londres et tag « On en a marre du poisson sur l'enclos des pingouins ». En 2015, Banksy pousse le bouchon plus loin avec 10 Smalands, son parc d'attractions à lui. Son but, créer une expérience familiale qui met en lumière les inégalités de la catastrophe imminente. Un Disneyland dystopien, en somme, où le château fait peur et la calèche de Cendrillon s'est renversée. Trop barré, sans doute, un mois après l'ouverture, c'est déjà la fermeture. Pas de souci, Banksy rebondit à Bethléem. Oui, à Bethléem, j'ai qu'un seul son d'ambiance pour tout le Proche-Orient. Ça s'appelle Mille et une nuits, ça passe, hein, franchement. À Bethléem, Banksy crée le World of Hotel, idéalement situé à proximité immédiate de la barrière de Barbelé qui sépare Israël des territoires palestiniens. Le World of vous propose la pire vue de tous les hôtels du monde. Bon, si vous m'écoutez encore, vous avez de la chance. Voici enfin le moment du récit qui a un rapport direct avec le thème de notre émission. En octobre 2018, l'iconique fille au ballon, Girl with Balloon, est mise aux enchères chez Sotheby's. Au moment où le tableau est adjugé à plus d'un million d'euros, Stéphane Bern ayant décidé de faire all-in, pile quand le coup de marteau du commissaire-priseur tombe, une alarme semblant provenir de l'œuvre retentit et la peinture commence alors à s'auto-détruire. Elle glisse de l'intérieur du cadre pour en sortir à moitié en lambeaux, comme si on la passait dans un broyeur, ce qui est justement le cas. Go go gadget au broyeur, et voilà que toute une salle des ventes pleine à craquer, la bouche bée devant ce happening complètement inattendu. Ça tweet, ça retweet, ça buzz, nouveau coup de génie signé Banksy. Au vu du timing parfait, il se pourrait bien quand même que Sotheby's était dans la combine, ça ne gâche rien, d'autant que la cliente accepte de garder l'œuvre en l'état, l'œuvre qui est rebaptisée « Love is in the bean ». Stéphane, Love in the Bean.
L'amour est à la poubelle.
L'amour est à la poubelle, effectivement, au fil du temps et des pranks, Banksy l'insoumis, Banksy, j'arriverai jamais à le dire, Banksy l'électron libre est donc paradoxalement devenu grand public et très coté pour un ancien système. Il est actif sur Instagram et sinon, c'est qui Banksy au fait? Je sais que c'est ça qui vous intéresse, sérieusement, c'est qui? Nombre de rumeurs et de noms circulent, normalement il est anglais, ça c'est à peu près sûr. Un des suspects principaux a longtemps été Robert Del Naja, aussi connu sous le street name de 3D et fondateur du groupe Massive Attack. Lui aussi est originaire de Bristol, mais les deux affirment qu'ils sont amis dans la vie et donc qu'ils sont deux personnes différentes. Pour d'autres, Banksy serait une femme, Banksy serait dans la prochaine saison de Masked Singer. Est-ce qu'il serait dans ce studio? Un type mystérieux, un peu anard, un peu nihiliste, bourré d'humour et qui parle anglais sans accent.
C'est David Castello-Lopez.
Peut-être. Mais alors, pourquoi quelqu'un d'aussi influent et d'accompli dans son art se donnerait-il la peine d'être là avec nous et d'enquêter sur des sujets comme l'origine des pansements et des cacahuètes d'emballage? Mr. Banksy, please, just for Europe One Radio Station, why do you work with us?
C'est une couverture, ça se trouve.
Ouais, it's a cover.
It's a cover?
It's a cover. You know, this little show you have. It's something I like to give to the world.
Oh, thank you, Mr. Banksy. Bon, en vrai, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on ne sait pas. Certains, évidemment, savent, à commencer par Stéphane Bern, qui l'a accueilli moult fois dans sa villa de Paros, avant de le déclarer en 2018 persona non grata, après qu'il a tagué le pool house.
Bah, j'aurais adoré, parce que ça se vendrait cher.
Vous pourriez vendre le pool house.
Ah bah oui.
Non, Stéphane lui avait administré un soufflet, et Banksy ou pas, il était reparti fissa sur EasyJet. Évidemment, vous n'allez pas nous donner son nom, Stéphane, mais peut-être un indice?
Il avait les dents du bonheur, une bonne soixantaine de tatouages et il chaussait du 38.
Intéressant, le Cluedo continue donc, Stéphane. On ne sait toujours pas qui est ce Banksy.
Non. Il s'appelle Banksy surtout.
Oui, je n'arriverai jamais.
Je pense que 87% des fois, vous l'avez prononcé.
Je suis face à quelque chose de simple. Qui est, donc, on dit Banksy.
Banksy, oui.
Bien sûr,
oui.
Parce que c'est son nom, en fait. Oui. Et je suis incapable de le dire, ce qui est très, très compliqué. Donc, effectivement.
La prochaine fois, je choisis un autre sujet. Merci, Mathieu. C'est des 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
C'est Banksy.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour regagner les rives rassurantes de notre quotidien, mais un quotidien éclairé par l'histoire.
Mais évidemment, toujours éclairé par l'histoire, on remonte aux origines des choses, des recettes, des mots et également des inventions. Des recettes d'abord, peut-être, Olivier Pouls,
des recettes et même des manières de les servir. Vous savez, le service. Le service à l'anglaise, à la française, à la russe. Voilà, d'où viennent ces différents services? Quelles sont les règles à connaître?
Ce sera pour vous un test, Stéphane Bern, valide un
peu
pas.
Je ne suis pas la baronne staff du service à table.
Vous n'êtes pas loin, tout de même. Le mot de la fin, c'est vous qui le reste, Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui?
Alors, vous ne connaissez pas cette expression parce que, en fait, vous avez la chance de travailler avec moi, mais tout le monde n'a pas cette chance.
Vous avez la poisse de travailler avec moi.
Mais non, tout le monde n'a pas cette chance de travailler ensemble. Donc, des gens ont la poisse. Mais d'où ça vient, avoir la poisse comme expression?
Je pense que c'est très vieux, c'est très ancien.
Ah oui.
Et puis d'abord, nous allons remonter aux origines d'une invention fort utile aujourd'hui, mais qui peut être piégeuse aussi si on lui demande n'importe quoi.
Tout à fait.
Les assistants vocaux, avec vous, David.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez. David, chaque jour, l'origine d'une invention. Et aujourd'hui, vous nous parlez des assistants vocaux, invention récente s'il en est.
Tout à fait. Moi, j'achète toutes les choses nouvelles. Parce qu'une des choses que je préfère dans la vie, c'est d'appuyer sur play sur une machine et que la machine fasse le truc à ma place. J'ai une machine à pain, par exemple. On met les ingrédients, on appuie sur play et deux heures plus tard, hop, du pain. Hein, même si Olivier Pouls, héritier de Jean-Pierre Coff, il dirait sans doute, c'est pas du pain, c'est de la merde. Mais bon, c'est quand même du pain, c'est quand même du pain. Il y a quelques années comme ça, j'ai acheté un potager connecté qui promettait de faire pousser du persil et de la ciboulette en appuyant sur play. Ça a été un échec absolu.
Je l'ai.
Ouais, voilà. Non seulement ça a pas donné de persil ni ciboulette, mais en plus ça a pourri, ça sentait mauvais, c'était nul. Vous avez une mauvaise expérience aussi.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et bien sûr, à la seconde où les assistants vocaux de Google et de Microsoft sont sortis, j'en ai acheté un de chaque. Hein, le Google Home de Google et le système Alexa de Microsoft. Et au départ, j'étais très enthousiaste de parler avec cette dame, hein, parce que c'est une dame qui est toujours très très aimable. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, cette dame, elle passait son temps à s'excuser d'être nulle. Hein. Exemple.
Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pardon, je suis toujours en plein apprentissage.
Voilà, c'est touchant. Hein. Cette dame, elle est vraiment, vraiment nulle. Même quand je lui pose des questions super simples du genre
« Ok Google, qui est David Castello-Lopez ?»
Eh bien la réponse c'est
« Excusez-moi, je n'ai aucune information à ce sujet. »
Mais va te faire foutre Google de merde, c'est pas possible ça. Et le pire c'est que quand ensuite je fais la même chose avec Mathieu Noël, et ben là elle sait.
Mathieu Noël, né le 13 novembre 1982 à Genève, est un journaliste.
Tais-toi. Voilà. Bon, le plus drôle, c'est quand même que de lui demander qui est Olivier Pouls, parce que là, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi.
Ok, Google, qui est Olivier Pouls?
Il aurait pu arriver en France grâce à Isabeau de Bavière, qui épouse Charles VI en 1385.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est même pas qu'elle sait pas.
Je viens de découvrir ses origines.
Voilà, exactement. Mais quelque chose de n'importe quoi total. Mais alors tout ça vient, ces assistants qui sont vraiment pas très compétents, qui était le premier robot avec lequel on pouvait discuter de façon pas du tout intéressante. Eh bien c'est un programme informatique mis au point au milieu des années 60 par un ingénieur du MIT qui s'appelait Joseph Weizenbaum. Ce programme il s'appelait Eliza et c'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un chatbot. C'est-à-dire que vous lui disiez des choses par écrit sur un ordinateur et il vous répondait. L'un des buts de Joseph Weizenbaum avec Eliza c'était de se moquer de certains psychothérapeute. Et donc, le programme fonctionnait sur un principe simple. À chaque fois que vous disiez quelque chose, Eliza reformulait vos paroles sous forme de questions, ce qui vous donnait l'impression d'être écouté. Et ça donnait des conversations du type « Eliza, je suis triste en ce moment. » « Ah bon ? Pourquoi es-tu triste ?»« Parce que Google Home ne me reconnaît pas alors qu'il reconnaît Mathieu Noël. » D'accord ? Mais pourquoi est-ce que t'es triste que Google Home reconnaisse Mathieu Noël et pas toi ? Parce que je souffre d'un sentiment d'insécurité chronique sur ma propre valeur. Je comprends. Est-ce que tu as d'autres exemples d'insécurité chronique sur ta propre valeur? Et voilà, chaque fois qu'il y avait une affirmation, hop, question sur l'affirmation. Et ce que Joseph a remarqué, c'est que les gens qui testaient Eliza étaient super contents parce qu'ils avaient l'impression d'avoir une vraie conversation et ils se sentaient mieux, un peu comme avec un vrai psychothérapeute. Comme quoi, ça peut être une idée, si vous voulez que les gens vous trouvent sympa, ça peut être une bonne idée de vous contenter de répéter leurs phrases sous forme de questions. Alors depuis, il y a eu des développements successifs qui ont abouti aux Siri et aux autres Alexa, mais tout de même on est encore très très loin d'avoir des robots qui puissent vraiment passer pour des personnes, parce qu'en fait dans une vraie conversation, ce qu'on fait nous les humains, c'est qu'on donne notre avis, on rebondit sur celui de l'autre et on se sert de plein de petits indices dans l'intonation, dans les mots utilisés pour guider la conversation. Or ça, les ordinateurs, ils sont encore complètement incapables de le faire. Et a priori, c'est pas pour demain la veille. En attendant, donc moi, les assistants vocaux, je m'en sers plus pour une seule chose, c'est comme minuteur. Et ça, c'est vrai que ça marche super bien. Exemple.
Ok Google, mets un minuteur de 3 minutes et 16 secondes.
Compris, 3 minutes et 16 secondes.
Voilà.
C'est parti.
C'est une montre en fait, c'est un minuteur classique
une montre
à 150
améliorée.
Balles qui le fait bien, mais bon, que d'autres choses peuvent faire, quoi.
Il y a un point que vous n'avez pas abordé, mais je me permets de vous conseiller un livre pour une fois, ça m'arrive pas souvent, mais il y a un livre qui est fascinant, qui est un peu une somme, ça s'appelle L'ère du capitalisme de surveillance, c'est signé Shoshana Zuboff qui est chercheuse à Harvard, et elle a compilé pendant 20 ans tout ce que Google prend de nous, en fait, et en fait c'est nous le produit, comme on dit,
ça fait peur,
et je sais pas si comment vous passez votre vie à cliquer OK quand on vous propose acceptez-vous les conditions,
et
elle a calculé que s'il fallait lire les conditions de tout ce qu'on nous propose, il faudrait 50 milliards de vies pour pouvoir lire, donc tout le monde clique bêtement et en fait on donne tout, Google machin vous écoute tout le temps en fait, pas quand c'est allumé, pas quand vous lui parlez, elle écoute tout ce qui se dit dans la pièce tout le temps.
Mais après elle sait pas que c'est vous spécifiquement, c'est-à-dire que c'est anonymisé,
c'est ce qu'ils disent.
Et moi après j'aime bien qu'on me propose des pubs plus ciblées, c'est-à-dire que avant je cherchais, maintenant en fait il y a le pantalon que je savais même pas que je voulais qui m'arrive. c'est exactement ce que je cherche.
Vous êtes fait pour le monde contemporain.
Oui. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Lui, il n'a pas d'assistant comme ça vocal. Hein. Non, Olivier, vous n'avez pas besoin de faire une brandade de morue. Vous savez la faire. Vous n'avez pas besoin de demander à Google Home comment faire. Eh bien, aujourd'hui, pas de recette, Olivier. C'est un peu particulier. Vous nous racontez les origines du service.
Oui, les menus, la manière dont on mange. Si je vais manger chez vous, par exemple, ce soir, enfin, quand on pourra.
Service à la française.
Service à la française, ça, c'est pas sûr.
C'est pas sûr,
ça. Ah, non, ça, c'est pas sûr.
Je maîtrise pas.
Probablement à la russe, à l'anglaise, voire à l'américaine.
Alors, racontez-nous tout.
Alors, le premier de tous ces services arrive au Moyen-Âge. C'est à partir du Moyen-Âge qu'on va commencer à codifier réellement la manière de manger. Et entre le Moyen-Âge et le début du 19e siècle, un service va s'imposer. En France, c'est le service dit à la française. Alors, il est codifié exactement au XVIIe siècle. Et en fait, on sert tous les plats simultanément par séquence. Alors, par exemple, on va d'abord servir les hors-d'œuvre, les entrées et les potages.
Ensemble.
Suivante, exactement. Séquence suivante, les viandes, les poissons en sauce. Séquence suivante, les grands mets salés, les rots et les salades. Non, il faut encore avoir faim. Hein.
Ah
ensuite,
ouais.
Les légumes, les tourtes, les entremets chauds, c'est pas terminé, les fromages, et ensuite on termine avec les desserts, les fruits, les compotes, les glaces, etc. Et à chaque fois, tous ces plats sont disposés en même temps sur la table et sont disponibles pour tous les convives.
Comme un brunch, quoi.
Dans les lieux chics, et notamment dans les cours, on vous adjoint un serveur qui va s'occuper, parce que vous ne vous servez pas vous-même, qui va s'occuper d'aller chercher, d'aller découper sur la table ce dont vous aurez envie, et il va vous l'apporter. Alors, ça a évidemment un certain nombre d'inconvénients, on mange froid, il faut une quantité astronomique de plats pour que ça ressemble à quelque chose, donc il faut être
il faut
très
personnel
nombreux.
De maison,
il faut
sûr,
beaucoup c'est... de personnel. Donc, on ne prendra pas chez vous, je pense, un menu avec un service à la française.
Ah, effectivement, non.
Alors, à partir du 19e siècle, c'est le service à la russe, paraît-il, emmené en France par l'ambassadeur du tsar de Russie au début du 19e siècle, en 1810. Et alors lui, il va simplifier en quelque sorte ce service, c'est-à-dire que on va faire un menu unique pour tout le monde, les plats vont sortir de la cuisine, on va installer des guéridons, on va découper, par exemple, la volaille devant les convives, et ensuite on va leur proposer un morceau à chacun son tour. Alors ça permet d'aller un peu plus vite, c'est plus économique, mais ça a toujours un petit inconvénient, c'est que il faut toujours du personnel parce qu'il faut servir au guéridon, et puis souvent comme on a la politesse d'attendre que tout le monde soit servi pour manger,
on mange
un petit peu froid. Et il y a une version un tout petit peu décalée de ce service à la russe qui va commencer à s'imposer, c'est le service à l'anglaise. Alors le service à l'anglaise, pas de guéridon, tous les plats sont déjà prédécoupés en cuisine et simplement un serveur, un domestique va se mettre à votre gauche, va vous présenter le plat, vous allez vous servir, il passera ensuite au suivant, etc., etc. Et c'est à ce moment-là aussi qu'arrive la disposition des différents couverts, puisque à chaque plat des couverts, on débarrasse par la droite et on vous enlève votre assiette.
J'essaie tout de mémoriser ça, hein, la prochaine fois.
Tout ça, ça reste encore un peu compliqué. Mais il y a un autre service qui, lui, va arriver beaucoup plus tard et qui est celui qui s'est imposé dans les restaurants, dans nos restaurants aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le service à l'américaine. Et le service à l'américaine, c'est le service à l'assiette. C'est-à-dire que le serveur arrive directement avec l'assiette, la pose devant vous, et l'assiette a déjà été composée. C'est un service que vont beaucoup aimer les chefs, parce que d'une part, il y a besoin de moins de personnel, et en tout cas de personnel moins qualifié, parce que vous imaginez bien faire les découpes de viande.
C'est l'œuvre d'art aussi.
Ça va donner libre cours aux chefs qui vont pouvoir exprimer leur créativité dans les assiettes, avec parfois, il faut bien le dire, un côté un petit peu chichité. Et alors il y a un tout petit dernier service qui est amusant, qui fait partie des services qui est inventé dans les années 40 aux États-Unis là encore. C'est le service dans la voiture, c'est le drive-in où là vous restez assis dans votre voiture
et
vous commandez. Et on vient vous apporter votre pitance sur place.
Mais finalement, le self-service, c'est un peu comme au Moyen-Âge.
Au guéridon.
Alors, le self-service, c'est le service à la française, parce qu'effectivement, les services à la française, on mettait pléthore de plats. Il pouvait y avoir jusqu'à 8 plats par séquence, donc vous imaginez. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'idée que chacun peut prendre un peu de ce qu'il veut. Bon, il n'y avait pas besoin de se trimballer avec son plateau à la main et de faire la queue. C'est un peu plus simple que ça. Mais le self-service, c'est un héritage, en fait, du service à la française.
Mais est-ce à dire que au Moyen Âge ou même au 18e, il n'y avait pas d'effort sur le dressage? Ça n'était pas relié à la gastronomie.
Le dressage concernait uniquement les plats. Et par exemple, Antonin Carême, qui était l'un des chefs les plus à la pointe du dressage, qui faisait des montages extrêmement spectaculaires, Antonin Carême a défendu, lui, jusqu'à la fin, le service à la française, parce que quand on apportait ces plats, ils étaient hautement spectaculaires, ils étaient très compliqués à découper, à présenter et à mettre dans les assiettes des convives, mais ils étaient extrêmement spectaculaires.
Très bien. Bravo. Et bien voilà, nous avons voyagé dans l'histoire de la gastronomie et des services avec vous, Olivier Pouls, une chronique qu'on retrouve, comme toutes vos chroniques, toutes vos recettes, sur le site d'Europe1.fr. Stéphane Bern, je vous sens chaud pour le mot de la fin. Aujourd'hui, l'expression « avoir la poisse ».
Oui, je ne sais pas si vous en êtes peut-être rendu compte, mais il y a des jours où tout semble se goupiller de guingois et d'autres jours, au contraire, ça semble rouler comme sur des roulettes. Eh bien, si vous appartenez à cette catégorie de gens pour qui tout va de travers, il y a peut-être une explication assez plausible, c'est que vous avez la poisse. Mais d'où vient cette expression « avoir la poisse » ?
Alors, avoir la poisse, on le dit, c'est jouer de malchance. Alors, d'où vient le mot « poisse » ? On dit « poissard » aussi.
Oui, sauf qu'un poissard ou une poissarde est au XVIIIe siècle une personne vulgaire, ayant des mœurs attribuées au bas peuple. Ça vient d'ailleurs de la marchande de poissons, qui en plus de ne pas avoir des bannières très distinguées, pouvait aussi chercher à vous arnaquer sur la qualité des produits proposés et des transactions commerciales. Le poissard, c'est celui qui a, au sens propre, les mains enduites de poids pour voler.
Voilà.
Tout vient de la poix, avec un X. Hein. C'est oui. Voilà, une sorte d'enduit fait de résine de pin, de sapin ou de goudron de bois. Au XVIe siècle, on enduit de poix. Cela donnera le verbe poisser. Cette matière est définitivement collante, difficile de s'en débarrasser, tout comme la malchance qui parfois s'acharne sur nous. Au Moyen-Âge d'ailleurs, on ne jetait pas d'huile bouillante sur les assaillants. L'huile était beaucoup trop précieuse. On le faisait avec cette poix qui non seulement brûlait, mais qui en plus empêchait toute progression. En Espagne, on ne dit pas avoir la poisse, mais tener mala pata, avoir mauvaise patte. Au Brésil, c'est serpe frio. Rien de vulgaire, ça signifie avoir le pied froid. Et retour en France, on dit aussi avoir la guigne. La guigne, c'est guigner, loucher. Ça revient finalement, comme en Grèce, à attirer le mauvais œil. Pour être complet, n'oubliez pas, avoir de la chance, c'est naître dans une famille riche et fils unique. Ça, c'est un bon mot. Et un beau mot de l'écrivaine québécoise, Alice Parizeau. Enfin, moi, je suis parti de ceux qui pensent qu'il n'y a pas que par l'héritage qu'on peut réussir dans la vie, on peut se faire par soi-même. Voilà.
Bien joué, Stéphane.
Oui.
Bien joué. À l'instar de nos personnages du jour, je vais maintenant détruire cette émission. Les amis, passez-moi le matériel, Stéphane. Ah oui, monsieur est bien équipé. Certainement un investissement qui date de l'époque Carole Rousseau. Bref, l'heure est venue de détruire notre œuvre. Cette émission, qui, je vous rassure, sera tout de même sauvegardée en podcast. Stéphane, lequel de nos artistes autodestructeurs vous a le plus marqué aujourd'hui, finalement ?
Écoutez, j'ai bien aimé votre portrait de Banksy.
Comment vous dites ?
Monsieur Banksy.
Vous avez du mal à le dire, j'ai l'impression.
Non, pas du tout. Donc maintenant, oui, on sait que vous pensez que c'est Massive Attack.
C'est une chronique qui appartiendra au bêtisier, n'est-ce pas, de cette émission. Je vais essayer de le dire une dernière fois, la chronique sur Banksy. J'ai réussi.
Ouais, bravo.
C'est mieux vaut tard que jamais. Comme disait Nietzsche, Stéphane, demain sera un autre jour. Et êtes-vous déjà en mesure de nous fournir le programme qui nous attend dans Historiquement Vôtre ?
Oui, demain, ils ont vu le loup. On réunit trois personnages dont le loup a marqué l'œuvre. Jean de La Fontaine et ses fables, dont on parlera avec un invité qu'on est très heureux de recevoir, sur Robin, Fabrice Lucchini, puis Sergueï Prokofiev ou Serge Prokofiev et son célèbre opéra Pierre et le loup.
Et moi, je vous parlerai d'un comédien qui a dansé avec les loups, Kevin Costner.
Ah bah j'ai hâte de
vous entendre. J'ai hâte, moi, de voir le loup avec vous, Stéphane. Et je regarde déjà d'avoir prononcé cette phrase vite. Saluons-nous cordialement. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.